Suite des matins avec la revue de presse internationale de Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour.
Une fois n'est pas coutume, ce matin, vous allez nous parler du tennis et même du numéro 1 mondial.
Et oui, c'est Novak Djokovic. Il est serbe, mais ça, vous le saviez peut-être déjà. Et en début de semaine, il a fait parler de lui en expliquant sur son compte Facebook qu'il ne pourrait peut-être pas reprendre le cours normal de sa brillante et lucrative carrière au sommet du tennis mondial parce que Novak Djokovic est anti-vaccin et que même si un vaccin contre le Covid-19 était disponible et lui permettait de reprendre les voyages, les tournois, eh bien, il ne pense pas qu'il accepterait de se faire piquer. Alors, cette déclaration, elle est empreinte d'une part de doute, note le quotidien gratuit Metro, édition britannique. Novak Djokovic n'affirme pas qu'il refusera à tout prix de se faire vacciner, mais il nous dit une chose, on peut encore être anti-vaccin. Aujourd'hui, cette croyance-là, pour le coup, elle a la peau dure. Et oui, même si des centaines de milliers d'habitants de cette terre meurent avec des conséquences encore impossibles à vraiment mesurer sur nos sociétés et nos vies à venir, même si on a à peu près tous compris, poursuit Metro UK, que le seul moyen réaliste de se débarrasser de ce coronavirus, c'est de trouver le bon vaccin sûr et efficace et de vacciner un maximum de monde, ce qui, soit dit au passage, pourrait prendre entre 12 et 18 mois. Même si la situation pandémique semble assez criante comme ça, eh bien non, il y a encore des personnes, et parmi elles le numéro 1 mondial de tennis, qui semble prête à refuser d'être sauvé par la science et la médecine, nous dit Metro. Enfin, il y en a tout de même de moins en moins, veut croire de son côté The Independent, toujours de l'autre côté de la Manche. Maintenant qu'ils ont vu à quoi ressemble vraiment une pandémie, certains anti-vaccins reconsidèrent leur position, mais ce sont les moins convaincus, tempère de Guardian. Ceux qui se sont laissés embarquer dans la sphère anti-vax, comme on dit, à la naissance d'un enfant par exemple, en allant à la pêche aux informations sur des blogs soi-disant bien informés, ou en tombant sous le charme d'une célébrité qu'ils admirent et qui s'est elle aussi convertie à cette cause. C'est d'ailleurs pour ça que la prise de position de Novak Djokovic est grave, selon le journaliste sportif Toumaini Karayol, parce qu'elle illustre l'influence négative que peut avoir le vedettariat sur un sujet de société aussi crucial, cette frontière très fine qui il y a entre le sportif de haut niveau, sympa, qui vante en interview la sérénité qu'il trouve dans la télékinésie et la spiritualité, et un homme qui utilise son exposition médiatique pour faire passer des messages dangereux pour la santé de ses fans et plus généralement pour la santé publique.
Et ce que nous dit aussi le Guardian, Camille, c'est que les plus radicaux des anti-vaccinations, eux, ne sont pas du tout ébranlés en ce moment dans leurs convictions.
Oui, si les plus tendres se sont laissés convaincre, les anti-vaxeurs extrémistes, tels que les désigne le quotidien britannique, sont en train de capitaliser en fait sur la situation actuelle pour renforcer leur discours. Et le moment venu, ils pourraient même sérieusement perturber les campagnes de vaccination contre le Covid-19. The Guardian nous rappelle au passage que ce mouvement anti-vaccin est particulièrement fort en France, où des études montrent que 33% de nos compatriotes estiment que les vaccins ne sont pas sûrs. Mais c'est aux États-Unis que le Guardian termine sa démonstration sur la radicalisation des opposants les plus farouches au vaccin en période de Covid-19. La pandémie actuelle et la quête désespérée d'un vaccin est vue forcément comme une manœuvre des grands laboratoires pharmaceutiques pour maximiser leurs profits. C'est l'un des ressorts conspirationnistes préférés des anti-vaxxers et il est donc renforcé par la crise que nous traversons. Pour s'en convaincre, il suffit de constater avec The Business Insider aux États-Unis que l'on trouve aussi des slogans anti-vaccins dans les manifestations américaines contre le confinement et pour la liberté dont je vous parlais lundi, la pandémie, il faut bien le constater, conforte plutôt cela dans leur refus des discours scientifiques et rationnels.
Et parlons à présent d'une autre maladie pour laquelle il n'existe là non plus aucun vaccin homologué.
Et pourtant, elle reste la plus meurtrière en Afrique depuis des décennies. Il s'agit de la malaria, le paludisme si vous préférez, qui fait un retour tristement remarqué au Zimbabwe et vient compliquer la lutte contre le Covid-19, à moins, vous allez voir, que ce ne soit l'inverse. On lit dans le journal local The Chronicle que la fièvre des marais a déjà fait 131 morts zimbabwéens et 135 000 malades depuis le début de l'année. C'est beaucoup plus, il faut bien le dire, que le Covid-19 qui a fait 3 morts pour 28 personnes contaminées au Zimbabwe. Et pourtant, l'épidémie trop bien connue des Africains, le paludisme, ne suscite pas du tout la même urgence chez les dirigeants du pays. Hier, le gouvernement d'Harare a prolongé de 2 semaines le confinement contre le coronavirus. Et il y a des craintes que la cohabitation des deux épidémies ne nuise au final à la gestion des deux, car les symptômes des deux maladies sont assez proches, constate The Chronicle, et il y a des risques de mauvais diagnostic, voire de co-infection, puisque le parasite de la malaria et le coronavirus peuvent cohabiter. Le problème, c'est que l'un peut masquer l'autre et empêcher qu'on applique les bons traitements à chaque personne.
Et puis, il y a aussi le risque, plus globalement, que la mobilisation contre la Covid-19 n'affaiblisse la lutte nécessaire contre la malaria.
Et c'est ce sur quoi alertait la semaine dernière un article de Devex, revue en ligne spécialisée dans les questions de développement international. Dans de nombreux pays, en Afrique mais aussi en Asie, on constatait que la fermeture des frontières entre pays ou entre régions et le confinement avaient compliqué, voire empêché, les campagnes de prévention contre la malaria et de démoustication. En Afrique du Sud, le Mail and Guardian compare avec une autre épidémie, Ebola, qui dans les pays où elle a mobilisé les forces sanitaires ces dernières années, a aussi entraîné un pic de malaria. Cette dernière reste, on l'a dit, la maladie qui tue le plus chaque année en Afrique. 380 000 morts en 2018 dans le monde, selon l'OMS, pas dans le monde, mais en Afrique, selon l'OMS, et ce sont en grande majorité des enfants. Pourtant, il faut le rappeler, aucun vaccin n'a encore pu être mis sur le marché. Devex nous explique que des essais cliniques sur des volontaires humains ont commencé l'an dernier seulement dans trois pays, Kenya, Ghana et Malawi. Mais là encore, ils doivent faire face à la réticence de nombreux Africains alimentés par des infox conspirationnistes autour de l'industrie pharmaceutique étrangère et blanche qui utiliserait les Africains comme cobayes ou voudrait rendre les Africaines infertiles. Les anti-vaccinations, quel que soit le continent, n'ont décidément pas dit leur dernier mot, Guillaume.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale.